Machado de Assis, le chanoine ou métaphysique du style. Tu viens du Liban, ô mon épouse, tu viens du Liban, tu viens. Les mandragores ont exhalé leur parfum. Nous avons à notre porte toute la lignée des colombes. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous rencontrez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour. » Et c'est aux accents de cette mélodie du vieux drame de Judas qu'un adjectif et un substantif se cherchaient l'un l'autre dans la cervelle du chanoine Mathias. On ne m'interrompt pas, cher lecteur inconsidéré. Je sais bien que tu refuseras de croire à ce que je vais te dire. Pourtant, je parlerai tout de même, en dépit de ton peu de foi, parce que le jour de la conversion publique doit arriver. Ce jour-là, oh, je suppose que ce sera aux environs de 2222, le paradoxe perdra ses ailes et revêtira la tunique de la simple vérité. Alors, ces pages mériteront plus que de la louange, l'apothéose. On les traduira dans toutes les langues. Les académies et les instituts en feront un petit livre à l'usage des siècles. Papier de bronze, tranches dorées, caractères d'opale emboutis, couverture de vieil argent. Les gouvernements décréteront l'enseignement dans les collèges et les lycées. Les philosophes brûleront toutes les doctrines antérieures, même les plus définitives, pour adopter cette psychologie nouvelle, la seule vraie, et tout sera dit. Jusque-là, je passerai pour un sot, comme vous l'allez voir. Mathias, chanoine honoraire et prêcheur effectif, était en train de composer un sermon au moment où commence cette idylle psychique. Mathias a 40 ans et passe son temps au milieu des livres, au fin fond de la Gamboa. On est venu lui commander un sermon pour une fête prochaine. Plongé comme il l'était dans la méditation d'une grande œuvre spirituelle arrivée par le dernier vapeur, il a d'abord refusé, puis il a cédé aux instances. « Monsieur l'abbé, ce sera pour vous un jeu, » a dit le principal ordonnateur de la fête. Mathias a souri d'une façon douce et discrète, comme doivent sourire les ecclésiastiques et les diplomates. Les adorateurs, l'ordonnateur, se sont retirés avec de grands gestes de vénération pour aller annoncer la solennité dans les journaux, en faisant ressortir que le chanoine Mathias, un des ornements du clergé brésilien, prêcherait à l'Évangile. Et cet ornement du clergé a fait perdre au chanoine l'envie de se mettre à table pour déjeuner quand il a lu l'entrefilet le matin. C'est uniquement pour faire honneur à sa parole qu'il a commencé à écrire le sermon. D'abord, l'élan lui manqua. Mais au bout de quelques minutes, le travail lui devint agréable. L'inspiration, les yeux fixés au ciel, la méditation, les yeux abaissés vers la terre, se tiennent de chaque côté de sa chaise, se penchant sur le dossier pour dire au chanoine mille choses mystiques et graves. Et Mathias écrit tantôt vite, tantôt lentement. Les bandes de papier sortent de ses mains, animées et polies. Beaucoup n'ont que peu ou point de rature. Et soudain, au moment d'écrire un adjectif, il s'arrête. Il en met un autre et le raye. Et un troisième n'a pas de meilleure chance. Voici le nœud de l'idylle. Montons au cerveau de l'évêque. Nous y voilà. Quelle ascension, ami lecteur! Il y a des gens qui disent qu'en haut du Concordado, L'impression de hauteur est telle que l'homme semble réduit à rien. Opinion liée à la terreur panique est fausse comme Judas et comme nombre de diamants. Ne t'y arrête point, lecteur, ainsi. Le Corcovado et l'Himalaya sont bien peu de choses auprès de ton cerveau qui les mesure. Nous y voilà. Oh, c'est vraiment l'intérieur du crâne de notre chanoine. Nous avons à choisir entre les deux hémisphères cérébraux. Bah, allons de ce côté où naissent les substantifs. Les adjectifs naissent de l'autre côté. Cette découverte qui n'appartient n'est d'ailleurs pas la principale, mais elle me sert de base à une autre, comme on va le voir. Oui, mon cher monsieur, les adjectifs naissent d'un côté, les substantifs de l'autre, et toute la vie série des vocables est ainsi divisée par suite de la différence sexuelle. Sexuelle. Oui, madame, sexuelle. Les mots ont un sexe. Je suis en train d'achever mon grand mémoire psycholexicologique où j'expose et je démontre ma découverte. Les paroles ont un sexe. Mais alors elles s'aiment d'amour? Elles s'aiment, oui, et elles se marient. Le mariage, c'est ce qu'on appelle le style. Avouez, madame, que vous ne comprenez rien à tout cela. Oui, je l'avoue. Eh bien, entrez ici dans la tête du chanoine. Voilà justement que l'on soupire de ce côté. Savez-vous qui soupire? C'est le substantif de tout à l'heure que le chanoine a écrit sur le papier et qui lui fera tenir la plume en suspens. Il appelle un certain adjectif qui n'apparaît pas. Tu viens du Liban, tu viens... Il parle sur ce ton parce qu'il se trouve dans la tête d'un prêtre. S'il était dans celle de n'importe quelle personne du siècle, son langage est celui de Roméo. Juliette et le soleil, ah, lève-toi, soleil. Dans un cerveau ecclésiastique, il parle la langue des Écritures. En fin de compte, qu'importent les formes, les formules? Amants de Vérone ou de Judas parlent tous le même idiome, comme il arrive au thaler et au dollar, au florin et à la livre sterling, qui sont tous un même argent. À travers les circonvolutions de ce cerveau ecclésiastique, cherchons donc ce substantif qui poursuit un adjectif. Sylvia, vieux s'appelle Sylvie. Écoutez, ne dirait-on pas que quelqu'un soupire aussi dans le lointain? Ah, mais c'est Sylvie qui appelle Sylvias. Ils se sont entendus et se cherchent. Quel chemin difficile et compliqué! Un cerveau est rempli de tant de choses nouvelles et de tant de vieilles. Le bourdonnement des idées permet à peine aux deux soupirants d'entendre leurs appels. Ne perdons pas de vue l'ardent Sylvius qui va de côté et d'autre, monte, descend, glisse et saute. Et pour ne pas tomber, il s'accroche à une racine latine. Plus loin, il aborde un psaume. Il escalade un pentamètre et continue son chemin, poussé par une force intime et irrésistible. De temps à autre, quelques dames, naturellement une épithète, lui offre ses charmes juvéniles ou surannés. Mais non, ce n'est point celle qui l'attend. Elle, l'unique, destinée à Meterno, à cette union. Et Sylvius continue sa route, à la recherche de la prédestinée. Oh, vous pouvez passer, yeux de toute couleur, corps de toute forme, cheveux empruntés à la chevelure du soleil Moi, celle de la nuit. Vous mourrez sans écho, cantilène, soupirez aux accords de l'éternel violon. Sylvius ne veut point d'un amour quelconque, adventice et anonyme. Il lui faut un certain amour, normal et prédestiné. Tu t'effraies, lecteur, il n'y a pas de quoi. C'est seulement le chanoine qui se lève, va à la fenêtre, s'y accoude pour se reposer de l'effort. Il regarde, il oublie le sermon et le reste. Le perroquet, sur son perchoir, lui adresse du rebord de la fenêtre les paroles accoutumées, et dans la cour, la dinde étoffe son plumage au soleil du matin. Le soleil lui-même, reconnaissant le chanoine, charge un de ses fidèles rayons de lui présenter ses hommages. Et le rayon s'arrête à la fenêtre et dit: Illustre chanoine, je vous apporte les compliments de mon seigneur et père. Toute la nature semble applaudir au retour de ce galérien de l'esprit. Et lui-même est enchanté. Il porte ses regards sur l'espace, leur permet de se repaître du frais aspect des feuillages, tandis qu'il écoute le chant d'un oiseau ou les accords d'un piano. Ensuite, il s'adresse au perroquet, appelle le jardinier, se mouche, frotte les mains, s'étire, sans plus de soucis de Sylvius et de Sylvie. Mais Sylvius et Sylvie se soucient l'un de l'autre. Et tandis que le chanoine s'occupe de toute autre chose, il continue à se chercher, sans qu'il se doute absolument de rien. Maintenant, le chemin est obscur. Nous passons du domaine de la conscience à celui de l'inconscient, où se fait l'élaboration confuse des idées. Les réminiscences y dorment ou y sont plongées dans un demi-sommeil. La vie informe la multitude des germes et des détritus, des rudiments et des sédiments, pullulent dans ce grenier immense de l'esprit. C'est ici que sont tombés les deux soupirants, s'appelant à la recherche l'un de l'autre. Donnez-moi la main, lectrice, accrochez-vous à moi, lecteur, et laissons-nous glisser aussi. Vaste monde inconnu! Sylvius et Sylvie cheminent entre des embryons et des ruines. Des groupes d'idées, déduites l'une de l'autre à la façon du syllogisme, se perdent dans le tumulte des réminiscences de l'enfance et du séminaire. D'autres idées, grosses d'idées nouvelles, se traînent pesamment, soutenues par des idées vierges. Les choses et les hommes se mêlent. Platon porte les lunettes d'un greffier de la chambre ecclésiastique. Des mandarins de toutes les classes distribuent des monnaies étrusques et chiliennes, des livres anglais et des roses pâles, si pâles qu'elles ne ressemblent plus à celles que plantait la main du chanoine quand il était enfant. Des souvenirs pieux et d'autres familiers se croisent et se confondent. Voici les voix lointaines de la première messe. Voilà les cantilènes campagnardes qu'il entendait, les négresses chanter dans sa maison de lambeaux de sensations évanouies. Ici le plaisir, là une crainte, plus loin le dégoût des choses venues, chacune à leur heure, et qui glissent maintenant dans une grande unité impalpable et obscure. Tu viens du Liban, ô mon épouse, je vous conjure, fille de Jérusalem. Ah, leurs voix se rapprochent de plus en plus. Voici qu'ils pénètrent dans les couches profondes de la théologie, de la philosophie, de la liturgie, de la géographie et de l'histoire, leçons anciennes, Notion moderne, chaotiquement mélangée, dogme et syntaxe. La main panthéistique de Spinoza est passée ici en cachette. Et nous retrouvons là le coup d'ongle de l'ange de l'école. Mais rien de tout cela n'est Sylvius ni Sylvie. Emporté par une force intime, par une affinité secrète, il perce à travers tous les obstacles, passe par-dessus toutes les abîmes. Nous voici dans les réceptacles des sombres regrets, des dégoûts qui ont passé par le cœur du chanoine et qui forment des taches morales auprès desquelles, s'étend une teinte jaunâtre ou violacée, qui est le vague reflet de la douleur universelle. Il passe à travers tout cela, avec la rapidité de l'amour et du désir. Tu chancelles, lecteur? Oh, ce n'est pas l'effet d'un cataclysme. C'est tout simplement le chanoine qui s'assoit. Il s'est étiré à son aise et il est revenu à sa table de travail pour se relire et continuer sa tâche. Il prend la plume, la trempe dans l'encre et l'approche du papier en se demandant quel adjectif il accolera au substantif. Les soupirants sont justement tout près l'un de l'autre. Les voix s'élèvent, l'enthousiasme grandit, tout le cantique passe par leurs lèvres enfiévrées. Phrases allègres, anecdotes de sacristie, caricatures, facéties, aspects bizarres et disparates, rien ne les retient. Ils se sourient même pas. Ils vont, l'espace qui les sépare diminue. Demeurez, profil à demi effacé des bonnes gens ridicules qui firent rire le chanoine et qu'il a totalement oublié. Controverse, vieille charade, règle des jeux de cartes, et vous aussi, celle d'idées nouvelles et esquisses de conception, poussière qui formerait une pyramide, demeurez, attendez, désespérez. Vous leur importez peu. Ils s'aiment et se cherchent. Ils se cherchent et se trouvent enfin. Sylvius a rencontré Sylvie. Ils s'aperçoivent, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, haletants, mais bien payés de leur peine. Ils se joignent, entrelacent leurs bras et remontent tout palpitant des régions de l'inconscient dans le domaine de la conscience. Qui est celle-ci qui revient du désert appuyée sur le sein de son bien-aimé? Demande Sylvius, comme dans le cantique. Et elle, non moins érudite, lui répond qu'elle est comme un sceau sur son cœur et que l'amour est fort comme la mort. Et soudain, le chanoine tressaille. Son visage s'illumine. Sa plume émue complète respectueusement le substantif par l'adjectif. Sylvie cheminera aux côtés de Sylvius pendant le sermon que le chanoine va prêcher un de ses jours. Et ils iront ensemble chez l'éditeur, si le bon abbé fait publier ses écrits, ce que tout le monde ignore.